Chapitre 6. Si Colette n'avait fait aucune allusion en rentrant de Paris à ce qu'elle avait enduré, c'était qu'aujourd'hui, après 4 ans d'une vie obscure et difficile, elle n'avait plus la noble ambition de redonner à Jacques une élévation d'âme qui le ferait mépriser l'homme qu'il avait été, mais celle beaucoup plus modeste de lui cacher ce qui put lui rappeler le passé. Avec les quelques 1000 francs que Colette avait rapportés, la vie put reprendre son cours habituel. Jacques semblait à présent en bonne santé. Depuis 1 an, il suivait des cours à l'université, mais très irrégulièrement, car il était incapable de contention d'esprit. C'était Colette qui l'en avait persuadé dans sa crainte que lui inspirait l'avenir. Elle avait pensé qu'il pourrait partir plus tard, lorsqu'il aurait terminé ses études de médecine, pour une colonie saine où il aurait pu gagner sa vie. Avant, elle avait imaginé que Jacques pourrait être bibliothécaire, car elle faisait continuellement de petits plans et elle était alors rassurée. Quand il n'étudiait pas, il se promenait seul dans les jardins qui bordent le lac. Il reprit cette habitude. Il marchait des heures en rêvassant, car il avait une horreur presque maladive de s'asseoir. Toutes les pensées imaginables lui traversaient l'esprit au cours de ses randonnées interminables. Tantôt, il abandonnait Colette et s'engageait dans la Légion étrangère sous un faux nom. Tantôt, il travaillait 20 heures par jour, au point de regarder la nature quand il s'interrompait, avec des yeux émerveillés. Tantôt encore, une petite fortune lui tombait du ciel et il organisait définitivement sa vie. Il se voyait, prévoyant tout, faisant des calculs, et finalement, lorsque tout était réglé, se laissant vivre. Lorsqu'il rentrait après ses heures de solitude, il n'était que plus sombre. Il y avait 1 semaine que Colette était revenue, lorsqu'un jour, en revenant du marché, qu'elle faisait, un panier à anse rigide à la main, comme si elle allait cueillir des fruits, elle trouva le billet suivant de Jacques. « Je ne viendrai pas déjeuner, attends-moi, je serai là entre 3 et 4. » Colette relut plusieurs fois ces 2 lignes. Elle cherchait à deviner ce qu'elle pouvait bien cacher. C'était la première fois que Jacques lui laissait ainsi en mots. Il contenait implicitement l'aveu d'un événement important dont il n'y avait rien à craindre. Mais pourquoi alors n'avoir pas dit quel était cet événement? Le style télégraphique n'est jamais qu'un artifice. Il n'advient pas qu'on soit au point de ne pouvoir ajouter les quelques mots qui éclaireraient le destinataire. Que s'était-il donc passé? Colette fut prise de peur. Avec qui Jacques devait-il déjeuner? Elle avait remarqué au cours de cette dernière année qu'il avait beaucoup changé. Il ne parlait presque plus. Elle ne s'en inquiétait pas, car visiblement, ce silence n'était pas une marque d'indifférence à son égard. Elle croyait avoir compris qu'il souffrait, non pas de remords, mais de désœuvrement. Il était 5 heures lorsque Jacques rentra enfin. « Excuse-moi, Colette, » dit-il tout de suite. Sa pâleur, le tremblement de ses mains, contrastait avec l'air d'homme occupé qu'il voulait prendre. Colette le regarda avec méfiance. Elle connaissait trop Jacques pour ne pas pressentir quelque chose. Ce qu'elle redoutait par-dessus tout, c'était quand Jacques prenait sur lui de décider et qu'il la mettait devant le fait accompli. Elle savait par expérience que chaque fois, cela avait été cause de complications désagréables et que finalement, ça avait été à elle qu'incombait la tâche de réparer. « Il s'est passé une chose extraordinaire, » commença Jacques, avec ce regard qu'il fixait sur Colette pour qu'elle ne doutât pas de sa sincérité, le regard qu'il avait quand il avait agi à sa tête. « Je me trouvais ce matin à la bibliothèque lorsque j'ai fait la connaissance d'un monsieur d'une 40aine d'années portant une barbiche noire. Je le connaissais d'ailleurs déjà de vue, mais je n'avais jamais prêté une attention particulière à lui. Il m'a demandé si je n'étais pas par hasard français. » J'ai répondu affirmativement. Il m'a appris alors qu'il l'était également. Nous avons bavardé. « Voulez-vous que nous déjeunions ensemble ?» m'a-t-il demandé. J'ai accepté à la condition que je puisse passer ici pour te prévenir. Pendant le déjeuner, il a voulu savoir comment je m'appelais. J'ai changé de conversation. Colette paraissait écouter ce récit extravagant avec attention. En réalité, elle attendait la grosse invraisemblance qui lui permit de l'interrompre. Celle-ci ne tarda pas. Au café, le monsieur à qui je me gardais de poser des questions pour qu'il ne se crût pas autorisé à le faire aussi, m'apprit qu'il était... Tu ne devineras jamais qui est cet homme. Qui est-ce ? Je te répète que tu ne le devineras jamais. Je fus stupéfait. C'était M. Colonnas, le consul de France. Il me l'a pris le plus naturellement du monde. Nous avons alors parlé de Paris. Je lui ai dit que j'avais eu un frère tué à la guerre, que j'avais dû interrompre mes études à différentes reprises à cause de ma santé. « Et vous, avez-vous été à la guerre ? » m'a-t-il demandé. Je n'osais pas mentir. Je répondis que j'y avais été, que j'avais même été gravement blessé. « Est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, a-t-il continué, Jacques les Ardouins ? » Un instant, je songeais à feindre un profond étonnement, mais il me regardait avec une telle pénétration que je ne m'en sentis pas capable. « Ne vous évertuez pas à trouver une réponse, poursuivit-il avec douceur. Je sais que vous êtes Jacques les Ardouins. Je connais toute votre histoire. Il y a longtemps que je cherchais à avoir un entretien avec vous pour vous en parler justement. » Colette remarqua que Jacques, une fois arrivé à ce point de son récit, s'exprima avec plus d'aisance. « Pourquoi ne retournez-vous pas en France ? Je ne comprends pas votre conduite. Finalement, vous devrez rentrer un jour. Pourquoi ne le faites-vous pas ? La vie que vous menez en ce moment est sans issue. À votre âge, il faut songer à prendre votre place dans la société. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment en marge. Si vous attendez trop, il sera peut-être un peu trop tard. Si je vous parle ainsi, c'est que j'ai la conviction profonde que les hommes vous pardonnent. Tous, nous avons commis des fautes de jeunesse. » Cette fois, Colette ne put en entendre davantage. « Ne te donne pas toute cette peine, Jacques. Il y a longtemps que j'ai compris que tu mentais. »« Moi ? Pourquoi ne dis-tu pas tout de suite que tu voudrais rentrer en France, que tu es là de mener la vie que nous menons, que tu espères être pardonné par tous ? Mais tu te trompes, mon pauvre ami. » À la suite de cette scène, Colette réfléchit longuement. Il ne lui servait à rien de s'emporter contre le mensonge enfantin de Jacques, bien qu'elle eût témoigné à celui-ci assez de dévouement et d'amour pour qu'il lui parlât à cœur ouvert. Il avait des excuses. Sa santé, cette existence d'homme traqué beaucoup trop lourde pour son cœur meurtri, la crainte de l'avenir et sans doute une sorte de contrition imparfaite causée par la crainte d'un châtiment. Il valait mieux essayer de parer aux ravages qu'une existence solitaire faisait dans l'âme du jeune homme. Au lieu de calculer chaque jour ce qu'on pouvait dépenser, au lieu de passer son temps à se lamenter sur la diminution quotidienne d'un avoir que rien ne remplacerait, il était plus sage de tenter de se créer une vie normale, une vie qui ne fût guère différente, sinon qu'elle se déroulerait à l'étranger, de celle que le ménage eût menée à Paris. Les soi-disant conseils du consul avaient fait comprendre à Colette ce que Jacques désirait secrètement. Elle n'avait pas de temps à perdre si elle voulait le faire entrer dans une voie plus raisonnable. Car s'il était une solution qui lui paraissait insensée, c'était celle de se rendre à Paris pour tâcher de régler le passé. Elle connaissait trop la faiblesse de Jacques pour ne pas prévoir, en admettant, ce qui était loin d'être certain, que le mobile de son acte criminel, le temps qui s'était écoulé depuis, sa famille, lui valusse des circonstances atténuantes, et par cela une condamnation avec sursis ou bénigne, qu'il saurait le jouer de tous ceux qui l'entoureraient et qu'elle, en conséquence, serait écartée. Quelques jours plus tard, elle lut dans un journal qu'une situation de gouvernante était offerte par une famille genevoise à une jeune fille française. L'idée lui était venue de travailler de manière à stimuler Jacques par son exemple. S'il envisageait un projet aussi fou que de rentrer en France et de se constituer prisonnier, c'était, du moins se l'imaginait-elle, à cause de la proximité de la fameuse scène du consul et du voyage qu'elle avait fait à Paris, que Jacques était trop seul, qu'il ruminait trop de pensées. Si tous deux, comme des associés, décidaient de sortir du mauvais pas où ils se trouvaient, en travaillant, en bâtissant chaque jour l'avenir, il n'aurait plus l'occasion, dans cette existence remplie, de s'abandonner à des réflexions démoralisantes. Colette savait très bien qu'elle ne provoquerait cette émulation que si, la première, elle donnait l'exemple. Le lendemain matin, elle se leva de bonne heure. Quoiqu'elle ne prît aucune précaution pour ne pas réveiller Jacques, il dormait encore lorsqu'elle sortit. C'était un des premiers beaux jours. L'écorce noire des arbres avait brusquement gonflé. Le soleil brillait dans un ciel couvert d'une brume blanche qui se mouvait sur le fond bleu. Le vent léger qui soufflait inclinait à peine le faîte des arbres. Rien ne nous prédispose mieux à nous juger nous-mêmes avec la même clairvoyance que nous jugeons autrui qu'une promenade matinale. Colette revoyait un à un tous les actes qui l'avaient amené à la situation actuelle. Aucun ne lui semblait coupable, et pourtant elle éprouvait confusément le sentiment que, si un jour elle était vraiment malheureuse, ce serait qu'elle avait mérité une punition. N'avait-elle pas commis une faute le jour où elle avait accepté de partager le sort de Jacques? Elle chassa cette pensée. Il était trop tard maintenant pour revenir sur ce sujet. Ce n'était pas au moment où elle s'apprêtait à bouleverser sa vie qu'il fallait faire d'aussi paralysantes réflexions. Sa vie ne devait rester qu'un combat quotidien. Et, en cette matinée printanière, où il lui semblait voir les choses de plus haut, elle comprit que, fatalement, le jour arriverait où elle serait vaincue. Ce fut en faisant ces tristes réflexions qu'elle arriva devant la grille de la propriété des Boustetten. Comme celle de la pension, elle était couverte de lierre. On apercevait au travers un tennis, une bicyclette était appuyée contre un arbre. C'était sympathique. On devinait à ces détails, à d'autres encore, qu'il y avait des enfants. Colette sonna. Peu après, elle était introduite dans un salon meublé à l'anglaise. Madame Boustetten vint la rejoindre. C'était une petite femme corpulente, aux cheveux blancs, à la fois bouffants et soigneusement peignés, au nez relevé sans vulgarité. Les oreilles, trop volontairement apparentes, étaient petites, jolies. Elle était vêtue de noir. L'ensemble donnait une impression de coquetterie et d'austérité. Quand Colette eut dit qu'elle venait sur le vu d'une annonce parue dans le journal, Madame Boustetten s'épanouit. Rien ne lui faisait un plaisir plus grand que de voir que les coups de sonde qu'elle jetait de temps en temps et pour des raisons diverses dans le vaste monde inférieur au sien ne l'avaient pas été en vain. Elle fut très aimable, mais il ne pouvait être question pour elle de prendre une jeune fille française autrement qu'au père et à demeure. Elle n'en demanda pas moins à Colette de lui laisser son nom, qu'elle eut la délicatesse d'écrire, non sur une feuille volante, mais sur son agenda.